Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est une histoire très dure que je vais vous raconter. Très dure. Puisqu'il s'agit entre autres du meurtre en 1993 à Perpignan d'une petite fille de 8 ans. Le salaud de cette histoire s'appelle Patrick Tissier. Sa froideur, son goût pour les détails sordides et sa perversité sont absolument glaçants. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Début août 1993, à Perpignan, Pascal et Sylvie sont mortes d'inquiétude. Leur mère, Conchetta Lema, a disparu, évaporée. Elle ne répond plus au téléphone et elle n'est pas chez elle. Alors, elles vont voir le voisin, Patrick, qui est très proche de leur maman.
Ouais. Vous avez raison, c'est inquiétant. Faut aller voir la police, moi je pense. Faut pas traîner, hein. Bon, si vous voulez, je vous accompagne.
Et les voilà donc tous les trois au commissariat. Vous dites qu'elle s'appelle comment, votre maman?
Lema. L-E-2-M-A. Conchetta.
Bon, d'accord, je pense qu'à ce stade, il faut pas trop s'inquiéter, mademoiselle. Il est un peu tôt, hein? On va lui laisser quelques jours pour réapparaître. Si les policiers ne partagent pas l'inquiétude des deux filles, il y a une raison.
Et vous savez qui je viens de voir? Les filles de Conchetta Lema. Il semble que la miss ait disparu. Moi, j'ai pas osé leur dire, mais compte tenu du profil de l'oiseau, moi, je pense plutôt qu'elle est en cavale, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je n'en pense que du bien. Parce qu'il est vrai que cette Conchetta n'est pas une oie blanche, ça, c'est certain. Elle est la compagne d'un gros trafiquant de drogue actuellement en taule. Et elle-même doit comparaître devant le tribunal dans un mois pour complicité. Et donc les policiers se disent à juste titre qu'elle n'a pas disparu. Elle s'est carapatée. Et moi, je vous dis c'est possible, mais c'est pas sûr. Un mois plus tard, toujours au commissariat de Perpignan, débarque une femme qui s'appelle Marie-Josée Gauze.
Bonjour, monsieur. Voilà, je viens me porter plainte parce que on a voulu me tuer.
On a voulu vous tuer?
Mais qui ça? Eh bien, un de mes amis. Bon, d'accord, venez avec moi. Hein, on va voir ça.
Et Marie-Josée Gauze, 45 ans, raconte aux policiers ce qui lui est arrivé.
Voilà, c'est un ami, enfin en principe, il s'appelle Patrick, et il est arrivé chez moi hier soir, à la maison, vers 9h30 pour boire un coup. Et il m'a dit, je veux coucher avec toi. Je lui ai dit, ça va pas à la tête, c'est hors de question. Et puis tu sais que je suis en plein divorce. Enfin bref, il a fini par repartir. Et puis au moment d'aller me coucher, il est réapparu. Il s'était caché je sais pas où. En tout cas, il était là. Et là, il m'a passé un foulard autour du cou. Et il a serré très fort. Et moi, je me suis débattu comme j'ai pu. Après, il m'a jeté par terre. Il s'est mis sur mon dos. Et il m'a étranglé en me tapant la tête contre le carrelage. Et il criait, tu vas crever, tu vas crever. Et après là, je me souviens plus. Je me suis évanoui. Et quand je me suis réveillé, j'étais allongé par terre, j'étais toute nue. Et il m'avait bâillonné. J'avais les mêmes menottés. Et il a recommencé à m'étrangler. Il me disait, il faut que je te tue. Je ne le reconnaissais pas. Il avait des yeux de fou qui lui sortaient de la tête. Franchement, je me suis vue morte. Alors je lui ai crié, pourquoi? Pourquoi Patrick? Et il a répondu, Tu sais pas ce que c'est qu'un homme frustré. Et puis après, ben, il m'a relâché. Il m'a levé les menottes et les liens qu'il m'avait mis. Et puis il m'a dit, je vais partir, mais promets-moi que tu parleras pas. Moi, je pouvais pas garder ça pour moi, vous comprenez? C'est pour ça que je suis là. Je veux porter plainte contre lui.
Et il s'appelle comment, votre ami?
Il s'appelle Patrick. Patrick Tissier.
Les policiers se mettent immédiatement à sa recherche. Il a disparu. Est-ce que ce Patrick est le même que le voisin de Conchita Lema? Le même que celui qui a accompagné les filles au commissariat? La réponse est oui. Mais pour l'instant, les policiers de Perpignan n'ont pas encore fait le lien. Et c'est là qu'une troisième affaire éclate.
Appel à tous les véhicules. On recherche une petite fille prénommée Karine, âgée de 8 ans. Elle a disparu de l'école de la Cité Ensoleillée. On ignore si elle est seule ou accompagnée.
À 5 heures, la voisine de la maman de Karine est venue avec son grand frère Cédric la chercher à l'école. Elle était en train de jouer à la corde à sauter dans la cour. Elle m'a dit, je veux encore jouer, s'il te plaît, repasse me chercher à 6 heures. Bon, je l'ai laissé. Et c'est son frère Cédric qui devait aller la chercher à 6 heures. Et quand il est arrivé à l'école, ben, l'école a été fermée. Et Karine, ben, elle avait disparu. Voilà. J'ai appelé sa maman. On l'a cherché dans toute la cité. On ne l'a pas trouvée. Le lendemain, la photo de Karine est dans tous les journaux. Et les policiers ratissent le quartier à la recherche de témoins.
Oh ben moi, j'ai vu une fille, une petite fille, là, qui tenait la main d'un basané. Hein.
Moi, j'ai vu une petite fille, elle était avec un Chinois. Elle tenait par la main.
Bref, tout ça n'apporte pas grand-chose. Les policiers, bien entendu, convoquent la mère, qui était soignante. Vous êtes divorcé, hein, c'est ça?
Oui, je suis séparé, on n'était pas mariés.
Et c'est vous qui avez la garde des deux enfants, hein, Cédric donc et Karine.
Oui, voilà.
Est-ce que leur père a pu enlever votre fille, d'après vous?
Oh, franchement, je crois pas, non.
Autre chose, que souhaiteriez-vous nous dire concernant votre entourage, vos relations? C'est important, hein.
Je sais pas. Je suis à l'église des Saints du Dernier Jour à Perpignan. Mais je crois que ça n'a pas de rapport. Hein.
Qu'est-ce que c'est? L'église des Saints du Dernier Jour?
Eh bien, c'est les Mormons, si vous voulez.
C'est vrai qu'ils sont bizarres, les Mormons. Cette manière de faire du porte-à-porte avec leurs costards, des bibles et un grand sourire. Mais bon, qu'ils aient enlevé une petite fille de 8 ans, non. En tout cas, en plein mois d'août, voilà les policiers de la police judiciaire de Perpignan avec 3 dossiers sur les bras, que pour l'instant, rien ne relie. Une disparition d'adulte, Conchita Lema, une tentative de meurtre sur Marie-José Gauze, et la disparition de la petite Karine, 8 ans. C'est le témoignage de la pauvre Marie-José Gauze qui permet d'établir un premier lien entre ces 3 histoires.
J'ai entendu parler de la disparition de la petite Karine, et alors ça m'a fait penser à quelque chose. Un jour, j'étais avec Patrick Tissier, celui qui m'a fait du mal, et on passait en voiture près de la Cité Ensoleillée. Et là, Patrick, il m'a dit qu'il connaissait une femme qui habitait ici. Une femme très sympa, il m'a dit, qui était maman de 2 petits-enfants adorables, il disait. Une petite fille et un petit garçon qui vont à l'école juste en bas de chez eux. Voilà. Je me dis que la petite fille peut être ça. Ça pourrait être la petite Karine. J'en sais rien, hein. Mais peut-être que ça peut aider.
Objectivement, c'est une piste. Les policiers filent immédiatement chez la mère de Karine. Et quand ils arrivent, au passage, ils jettent un œil dans la chambre de la fillette. Et ils voient épinglée au mur une photo de Patrick Tissier, tout sourire, avec Karine à ses côtés.
Dites, madame.
Vous le connaissez, là, le monsieur qui est là sur la photo?
Eh bien oui, c'est Patrick.
Patrick comment?
Eh bien, Patrick Tissier. Je le connais de l'église mormone. Oh, c'est un type adorable. Il n'y a pas plus gentil et plus serviable que Patrick. Pourquoi vous me demandez ça?
Oh, pour rien. Les policiers ne disent pas à la mère que l'adorable Patrick Tissier est soupçonné d'avoir violé et voulu étrangler Marie-Josée Gauze. En revanche, à partir de maintenant, ils savent qu'au cœur de ces deux affaires, il y a le même homme, Patrick Tissier, qui n'est ni adorable, ni gentil, ni serviable, mais au contraire, absolument dangereux. Et donc, les policiers cherchent à en savoir plus sur l'oiseau.
Bon, ça se confirme, hein. Il est bien membre de l'église des scènes du dernier jour. Bon, là-bas, ils m'ont dit que c'était un type très chaleureux, qu'il assistait à la quasi-totalité des cérémonies, qui s'était même fait baptiser, et qui participait assidûment à un truc qui s'appelle les soirées familiales. Bon, ils m'ont dit aussi que dans ces soirées, il s'était beaucoup lié avec des femmes divorcées, dont effectivement la maman de la petite Karine. Et d'après eux, il a été invité plusieurs fois chez elle, et ils m'ont dit qu'il lui arrivait même de temps en temps de garder les enfants, et que donc les enfants l'appelaient Tonton Patrick. Voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur lui.
Donc Patrick Tissier est probablement le ravisseur de Karine. Probablement, mais sans certitude. Cependant, le témoignage d'un petit garçon de l'école vient conforter cette thèse.
Quand Karine, elle a disparu, eh ben moi, j'ai vu un monsieur qui attendait dans une voiture sur le parking. Et quand Karine, elle l'a vu, eh ben elle est allée le voir et elle avait l'air de le connaître. Et après, ils ont parlé. Et il est monté dans la voiture.
Et il était comment, ce monsieur?
Il avait une moustache.
Et sa voiture, elle était de quelle couleur, tu te souviens?
Elle était beige, sa voiture.
Patrick Tissier a justement une 304 de couleur crème. Dans les jours qui suivent, on cherche Patrick Tissier partout, en vain. Alors au bout d'une semaine, les policiers se résolvent à balancer sa photo à la presse. Et là, comme d'habitude, ça dégringole. Des tas de gens l'ont vu ou prétendent l'avoir vu. Le lendemain, sa voiture est repérée au nord de Pézenas. Des motards de police le prennent en chasse, ça dure une dizaine de kilomètres. Et à l'entrée du village, Tissier finit par s'arrêter.
« Bien, monsieur, vous allez mettre les mains en l'air, hein, et vous allez sortir tout doucement de la voiture, lentement. Voilà. Maintenant, vous posez les mains sur le toit de la voiture. Très bien. Il n'oppose aucune résistance. Et pourtant, il aurait pu.
Il y a un revolver et un fusil à pompe sur le siège passager de la 304. » À la gendarmerie, Patrick Tissier est pris en main par les policiers de la PJ de Montpellier. Ça fait 7 jours que la gamine a disparu. Elle est peut-être encore en vie.
Où tu l'as mis, la petite Tissier? Où tu l'as mis? Est-ce qu'elle est vivante? Putain, parle!
Mais en face, ils ont un mur.
Bon, ok, on le ramène à la PJ de Montpellier.
Et dans la voiture, l'atmosphère se détend un peu. De toute façon, pour moi, t'es un malade, hein, Patrick. Hein. T'es pas un salaud, t'es juste un malade, quoi. Être attiré par les enfants comme ça, c'est pas normal. Moi, je pense que t'aurais dû être soigné, que tu l'as pas été, quoi. À l'arrière, menotté, Patrick Tissier semble aimer cette idée d'être une victime. Pauvre fillette, quand même. Ça fait quoi, bientôt 8 jours, hein? C'est long, hein, pour un enfant, tu crois pas? Il faut qu'on la ramène à sa mère, Patrick. Il faut que tu nous aides à ramener Karine chez elle. Mais je vous dis que j'ai jamais rien fait à cette petite. Dommage. Au bout d'une heure, la voiture se gare au commissariat de Montpellier. Patrick Tissier va être remis au policier de la PJ de Perpignan. Et c'est là qu'il décide de sortir de son mutisme.
Attendez.
Oui ?
Je vais vous emmener où qu'elle est Karine.
Bien.
Ok, on repart.
Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Pourvu qu'elle soit encore vivante.
Bon, allez-y. Là, faut prendre la route de Perpignan. Et après, il faut que vous alliez jusqu'à Fitou, dans l'Aude. C'est là qu'elle est, la petite.
Le trajet dure 2 heures. 2 heures d'un silence pesant. Jusqu'à l'arrivée à Fitou.
Vous voyez la maison, là, avec les graffitis, là, qui est sur le bord de la route? Ben, c'est là.
Mais là où, Patrick? À quel endroit exactement?
Ben, dans la maison, il y a un puits. Et après que je l'ai tué, ben, je l'ai mise au fond du puits.
Donc, il l'a tué, le salaud. L'intérieur de la maison est un chaos indescriptible. Un mélange de gravats, de bouteilles cassées et de vieux matelas. Et dans le coin de l'une des pièces, il y a effectivement un puits. Sauf qu'il est rempli jusqu'à la gueule de déchets. Une poubelle. Il faut donc commencer par le vider. Une fois que c'est fait, un pompier descend dans le trou.
Il y a des gravats partout au fond. Envoyez-moi des sacs, il va falloir les évacuer.
Et soudain, un cartable apparaît. Et puis des chaussures d'enfant. Et puis dessous un matelas. Et sous le matelas, le cadavre de la petite Karine. En position fœtale et en décomposition dans l'eau saumâtre du puits. Le cadavre est remonté et allongé sur une table. Le médecin légiste vient d'arriver.
Bon, alors, je dirais que la mort remonte à 8 jours ou maximum 10 jours. Je remarquais des contusions, là, vous voyez, au visage. Donc, bon, elle a sans doute été frappée. Je vois ici des contusions sur les bras, hein, qui indiquent que sans doute elle s'est débattue. Et voyons, là. Ben oui, c'est ce que je craignais. On a des lésions vaginales, hein, ici. Et voyons... Ouais, ben on a des lésions anales aussi, hein. Elle a été violée, cette petite. Mais vous êtes à mesure de nous dire de quoi elle est morte, docteur? Probablement étouffée. Alors, soit que l'agresseur l'ait étranglé, ou soit qu'il l'ait étouffée sous son propre poids pendant qu'il l'a violée. On en saura plus avec l'autopsie, hein.
Battue, violée, étouffée. Une petite fille de 8 ans. Ce Patrick Tissier est une brute épaisse. Un type sans cœur. Une saloperie. La garde à vue de Tissier commence.
Après que je l'ai violée, Marie-Josée, Moi, je savais bien qu'elle allait porter plainte. Je l'ai tapé en plus, alors. Du coup, je me suis caché autour de Perpignan. Et puis, après 2 jours, j'ai eu des pulsions, quoi, des pulsions sexuelles. Je peux pas dire autrement, hein. Et là, j'ai pensé à Karine. Et j'ai eu envie d'elle. Bon, alors, je suis allé l'attendre devant l'école. Quand elle est sortie, elle m'a vu tout de suite. J'ai dit, c'est moi, aujourd'hui, que je te ramène chez toi. Et donc, elle est montée dans la voiture. Et après, je lui ai raconté que je prenais un autre chemin pour éviter de rouler sur des bouteilles qui étaient cassées. Elle l'a cru. Là, j'ai roulé jusqu'à un coin tranquille. Et là, je me suis arrêté. Et puis, je lui ai proposé de jouer un jeu où qu'elle porterait des menottes, quoi. Elle a accepté.
Elle a accepté, vous dites, de se laisser menotter.
Ouais. Et après, je l'ai bâillonné avec un t-shirt. Puis je lui ai passé une cagoule.
Et elle s'est laissée faire.
Ouais, sans trop de problèmes, ouais. Et puis, je l'ai un peu forcé à rester sur le plancher de la voiture. Et puis j'ai redémarré, je suis sorti de Perpignan. Et j'ai roulé en direction de Narbonne, quoi.
Et la petite restait tranquille.
C'est-à-dire, je la forçais un peu à rester tranquille, hein.
Il dit là qu'il est arrivé à Fitou et qu'il l'a violée dans la voiture.
C'est après que j'ai réalisé ce que je venais de faire, quoi. Et c'est là que j'ai décidé de l'étrangler.
La froideur de ses aveux. Zéro émotion. Un psychopathe de première bourre.
Il n'a pas encore avoué l'enlèvement et probablement le meurtre de Conchita Lema.
Mais je vous rappelle qu'elle est sa voisine de palier.
Vu le profil du bonhomme, les policiers et la juge n'ont pas beaucoup de doutes.
Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce sale type capable d'étrangler sans fléchir une petite fille de 8 ans? Accrochez-vous, parce que c'est du lourd. À 13 ans, il a tenté de violer sa petite sœur en l'enfermant dans sa chambre. À 16 ans, il s'en est pris à sa belle-mère qu'il a violée en lui tapant la tête contre le carrelage. À 18 ans, il a violé et étranglé sa petite amie Marie-Françoise. Il en a pris pour 20 ans. Sauf qu'il s'est tellement bien tenu en prison qu'il a bénéficié assez vite d'une remise de peine et surtout de permission de sortie. Et à sa 6e permission de sortie, il a vu une femme manger un sandwich dans sa voiture et il l'a violée. 4 mois de cavale et retour en prison. Et là, il reprend 20 ans. Écoutez bien, il n'en a fait que 10. Et on l'a laissé ressortir. Ça paraît incroyable, un prédateur comme lui. Et voilà, depuis, il a tué Karine, violé Marie-Josée et sans doute tué Conchita. Ce type est une saloperie. Mais tout de même, le système judiciaire qui a été si magnanime avec lui, le système n'est pas innocent.
Pendant l'instruction, Patrick Tissier vient plusieurs fois dans le bureau de la juge.
Et quand il raconte, il se régale des détails les plus sordides.
Ça l'amuse de raconter des erreurs. Ça l'amuse de déstabiliser la juge, ça lui plaît de la voir trembler et de lire l'effroi dans ses yeux. Ça le fait kiffer. Et quand il n'est pas dans le bureau de la juge, il lui écrit tous les jours pour en remettre une couche, lui raconter des trucs dégueulasses. Un jour, il va même jusqu'à lui écrire
« Je suis amoureux de vous, madame la juge ».
Un pervers. Un pervers redoutable.
Deux ans après les faits, il écrit encore à la juge.
« Chère madame la juge, j'ai des révélations à vous faire. Accepteriez-vous de venir me voir à la prison ?»
Elle y va. Et là, c'est le pompon.
« Il n'y a rien qui va ici, madame la juge. Je suis maltraité. C'est pas normal, je suis un prisonnier qui est comme les autres. Les matons, ils me parlent mal. Faudrait faire quelque chose, vous pouvez pas parler au directeur. Et puis aussi, ils veulent pas me donner de chocolat là pour le petit déjeuner. Vous pouvez pas leur en parler, non ?
Monsieur Tissier, je ne suis pas venu ici pour entendre vos jérémiades. Vous aviez, disiez-vous, quelque chose à me dire. Je vous écoute.
D'accord. Ben voilà. C'est moi aussi qui ai tué Conchita, le mort.
Pour être honnête avec vous, monsieur Tissier, je m'en doutais un peu. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles circonstances ?
Elle lui demande des détails. Et les détails, c'est son kiff.
Oh, ben je l'ai découpé en morceaux. Dans ma baignoire. Avec une scie que j'avais achetée au champ.
Et où avez-vous mis les morceaux du corps ?
La tête et le torse, je les ai jetés dans l'étang de la palme. À côté de Fitou.
Et le reste, si j'ose dire ? Les bras et les jambes ?
Oh, ça, je vous le dirai plus tard, hein, madame la juge. Oh, pas tout de suite, hein.
Il continue de s'amuser, le con. La juge envoie des plongeurs fouiller l'étang de la balme. Ils ratissent le fond en long, en large et en travers.
Bon, on n'a rien trouvé, hein, madame la juge.
Et donc, nouvelle convocation au palais de justice.
Bien, monsieur Tissier, nous n'avons strictement rien trouvé dans l'étang de la balme.
Oh, moi je vous ai dit que de bêtises. C'est pas là que je l'ai mis.
Alors, où l'avez-vous mise, en fin de compte ?
Oh ben ça, je veux pas vous le dire tout de suite. En revanche, je peux vous dire où c'est que j'ai mis les bras et les jambes.
Bien. Je vous écoute.
Je les ai mis dans un terrain, là, à la sortie de Perpignan. Vous avez une carte ? Voilà. C'est là que je l'ai mis.
Rebelote. La juge va sur place avec les pompiers. Et la surprise, il y a 2000 mètres carrés de gravats fraîchement répandus sur le terrain.
Et ça coûterait combien d'enlever tout ça ?
Très cher, madame la juge. Hein. Surtout que il a très bien pu mentir, hein, une fois de plus.
Il lui faut une année de plus pour dire où il a mis le corps de Conchita Lema.
Je l'ai mis dans un tunnel, à Canoës, là. Faut passer par les vignes.
Très bien, monsieur Tissier. On va vous emmener sur place, hein ? Vous nous montrerez.
Et les voilà tous dans le tunnel, à patauger dans l'eau. La juge, les policiers et les avocats. Et lui, bien sûr. Radieux.
Ben voilà, on est arrivé. C'est sous la terre, là.
On creuse et on finit par dégager des ossements emballés dans un rideau de douche. Les restes de Conchita Lema, 3 ans plus tard.
Le procès de Patrick Tissier s'ouvre en janvier 1998 à Perpignan.
La salle d'assises est comble. Les curieux sont venus voir le monstre. Et quand il entre dans le box, ils sont un peu déçus. Il l'imaginait, je suppose, avec une tête d'Hannibal Lecter. Et il voit entrer un type assez banal.
Physiquement, je veux dire. Sur le banc des parties civiles, la maman de Carinella, les filles de Conchetta Lema et Marie-Josée Goz, qui a échappé miraculeusement à l'ogre. Le procès commence, comme souvent, par l'exposé de la personnalité de l'accusé. On ne devient pas psychopathe par hasard. Et pardon de me répéter, mais l'histoire des grands tueurs est à peu près toujours la même. Et je laisse le reporter d'Europe 1 à l'époque vous présenter l'addition.
Une enfance malheureuse, un père trop dur, une mère volage qui a abandonné ses 6 enfants. Voilà la défense développée hier par Patrick Tissier pour tenter d'expliquer son parcours criminel, Maître Pierre Parra.
Sa mère est partie, a-t-il dit, à 10 ans. Il n'avait pas eu ou très peu d'affection jusqu'à cet âge. Et à partir de 10 ans, jusqu'au jour où il va quitter la cellule familiale qui ne sera plus occupée que par son père et la maîtresse de celui-ci, il va vivre un véritable calvaire. Il sera en permanence dénigré, il sera battu. Il est peut-être celui qui a eu le plus de chance ou qui a le mieux résisté en quelque sorte, puisque, je vous le rappelle, l'un de ses frères s'est suicidé, sa sœur Viviane a tenté de se suicider, ce qui démontre que l'ambiance dans cette famille était absolument épouvantable.
Sa sœur Viviane est là, qu'il avait tenté de violer quand il avait 13 ans.
Moi, je ne suis pas là pour charger mon frère. Je veux juste vous expliquer tous les mauvais traitements qu'on a eus quand on était enfant. Lui, moi et tous les autres.
Le troisième jour du procès, on évoque le viol et le meurtre de la petite Carine. Et une fois de plus, Tissier se régale des détails, avec toujours la même froideur.
« Oh ben, c'est comme ça, quoi. À un moment, ben, j'ai besoin de violer, quoi. C'est plus fort que moi. Je peux rien faire. C'était comme si, ben, je sais pas, moi, la petite Carine, ben, c'était comme si qu'elle était un tados. »
La maman de Carine fait un malaise et elle doit être évacuée. Le psychiatre expert vient dire que c'est un pervers et un sadique. Et surtout qu'il est incurable. Et à la fin, Patrick Tissier prend la peine maximale prévue par le code pénal. La cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Et dans la salle, les gens applaudissent. À la suite de cette affaire, le ministre de la Justice de l'époque, Pierre Méhaignerie, fait voter une loi qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui prévoit une perpétuité réelle et totale pour les auteurs de viol, d'actes de barbarie et de meurtre sur enfant.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.